extrait de Jalna et des White Hawk de Jalna, Mazo de la Roche. Jalna, chapitre 3. Ernest et Sacha. Ernest White Hawk avait à cette époque 70 ans. Il avait atteint l'âge où, après un dîner copieux, un homme aime à prendre un repos de corps et d'esprit. Des scènes comme celle que venait de faire sa mère avaient tendance à troubler sa digestion, et c'est avec un air aussi mécontent que possible qu'il la conduisit enfin à sa chaise capitonnée près du feu et l'y installa. Il la regarda un moment avec un singulier mélange d'aversion et d'adoration. C'était une déplorable vieille mégère, mais il l'aimait plus que personne au monde. « Vous êtes bien, maman ?» demanda-t-il. « Oui, apporte-moi une pastille de menthe. » Il en choisit une dans une petite boîte de fer blanc sur le buffet et la lui apporta au bout de ses longs doigts pâles qui semblaient d'une douceur presque anormale. « Mets-la-moi dans la bouche, mon garçon. » Et elle l'ouvrit en avançant les lèvres de telle façon qu'elle ressemblait à un vieil oiseau affamé. Il lui donna la pastille et retira précipitamment ses doigts comme s'il craignait qu'elle ne le mordît. Elle suçait le bonbon avec bruit et contemplait le feu dansant de dessous ses sourcils roux et hérissés. Sur le dossier de sa chaise était perché Bonnet, son perroquet aux couleurs vives qui becquetait avec fureur les rubans de son bonnet. Elle avait rapporté un perroquet de l'Inde et on l'avait appelé Bonnet pour se moquer de Bonaparte. Elle en avait eu plusieurs depuis le premier, mais il y avait longtemps qu'elle ne faisait plus de différence entre eux. Ils étaient tous bonnets. Et souvent, elle racontait à un visiteur la peine qu'elle avait eue à ramener celui-ci à travers l'océan, il y avait 75 ans. Il avait donné presque autant d'ennuis que le bébé Augusta. Grand-mère et ses deux fils avaient chacun un animal favori qui, à part son maître, n'aimait personne. Tous trois se tenaient avec leurs bêtes dans leur appartement comme des pensionnaires d'un rang supérieur. Et, excepté pour les repas, pour se faire des visites les uns aux autres et pour jouer au whist dans le salon le soir, ils en sortaient rarement. La chambre de grand-mère avait un tapis et des rideaux épais. Elle sentait le bois de santal, le camphre et la lotion pour les cheveux. On ouvrait les fenêtres qu'une fois par semaine lorsque Mrs. Rugg faisait le ménage à fond, ce qui mettait la vieille dame de mauvaise humeur pour la journée. Son lit était un lit ancien, en cuir peint. La tête resplendissait de fruits orientaux groupés autour d'un perroquet au plumage éclatant et de deux singes grimaçants. Bonnet restait perché là toute la nuit et n'en partait qu'au jour pour agacer sa maîtresse avec des coups de bec et des jurons hindous qu'elle-même lui avait appris. À ce moment, il se mit à jurer, car Sacha, dressé sur ses pattes de derrière, essayait d'attraper sa queue avec sa patte grise recourbée.
« Koutni ! Koutni ! Koutni ! »
criait-il.
« Pachi ! Pachi ! Chétan Kakatla ! »
Il faisait résonner l'air de ses cris métalliques.
« Ramasse ton horrible chatte, Ernest !» ordonna sa mère. « Elle fait jurer Bonnet !»«
Pauvre Bonnet, gentil Bonnet, arrache-lui les yeux, Bonnet !»
Ernest mit Sacha sur son épaule, où elle se hérissa de fureur, crachant à son tour des jurons moins compréhensibles, mais tout aussi vindicatifs. « Vous êtes bien ?» « Maintenant, maman ?» répéta Ernest en caressant le ruban de son bonnet.
« Mais quand vient ce monsieur ?»«
Quel monsieur, maman ?»«
Celui qui doit faire paraître le livre d'Éden. Quand vient-il »«
Je veux avoir mon bonnet écru, avec des rubans mauves. »«
Je vous le ferai savoir à ce moment-là, maman.
Du bois. Remets du bois sur le feu. J'aime autant qu'une autre avoir chaud.
Ernest mit une grosse bûche de chêne sur le feu et attendit qu'elle fût caressée par des flammes minces. Puis il se retourna pour regarder sa mère. Elle était profondément endormie, le menton enfoncé dans sa poitrine. Le bonbon était tombé de sa bouche et Bonnet s'en était emparé. Il l'avait emporté dans un coin de la chambre où il le jetait par terre pour le casser, se figurant que c'était une sorte de noisette extraordinaire. Ernest sourit et se retira en fermant doucement la porte derrière lui. Il monta lentement l'escalier avec Sacha qui se balançait sur son épaule et il gagna sa chambre. La porte de celle de son frère était ouverte et en passant il aperçut Nicolas affalé dans un fauteuil, sa jambe goûteuse posée sur le divan, sa tête peu soignée dans un nuage de fumée de cigare. Dans sa chambre, il fut étonné et content de trouver son neveu Eden. Les jeunes gens ne venaient pas souvent le voir. Ils préféraient Nicolas, qui avait des histoires égrillardes à leur raconter. Et pourtant, Ernest aimait leur compagnie. Et il était toujours prêt à abandonner son travail, la notation de Shakespeare, pour eux. Eden était assis sur le bout d'une table couverte de livres et il balançait ses jambes. Il avait l'air intimidé et agité. « J'espère que je ne vous dérange pas, mon oncle, » dit-il. « Dites-le-moi franchement et je m'en vais. » Ernest s'assit sur la chaise la plus éloignée de son bureau pour montrer qu'il n'avait aucunement l'intention de travailler. Les White Oak de Jalna, extrait du chapitre 2, La famille. « Fais voir, » dit Pierce en prenant le billet et en l'examinant. « Je veux bien être pendu si ce n'est pas un billet de loterie. Que veux-tu en faire, jeune Finch? Tu es malin, tu n'es encore qu'un collégien, ne l'oublie pas. » Ceci était une allusion à son échec. « Et tu n'es pas autorisé à jouer. »
« Qu'est-ce que cela ?» dit Rennie. « Apporte-le-moi. »
Pierce rendit le billet à son propriétaire.
« Porte cela à ton aîné et cours chercher sa courroie. »
Finch, lançant des regards enflammés, fourra le billet dans sa poche et se dirigea vers le hall.
« Reviens ici !» ordonna Rennie. « Et dis-moi ce que c'est que ce billet de loterie. »« Seigneur !» hurla Finch au comble de la fureur. « Ne puis-je acheter un billet de loterie si cela me plaît? Vous me croyez toujours un enfant au maillot ?»«
Tu peux en acheter une douzaine si cela te fait plaisir, mais je n'aime pas ta façon d'agir pour celui-là. »« Quel est l'objet de ce billet ?»«
C'est pour un canari, voilà tout !»
Et sa voix était rauque de colère.
« C'est vraiment drôle que je ne puisse pas acheter un billet de loterie pour un canari !»
L'explosion de joie qui accueillit cette réponse fut telle qu'elle aurait trouvé son équivalent dans bien peu de familles. Lorsque le premier éclat de voix fut un peu apaisé, Rennie cria de sa voix métallique.
« Un canari ! La prochaine fois, ce sera un poisson doré ou un arbre à caoutchouc ?»
Mais dans le fond, il était honteux pour Finch. Il l'aimait, ce garçon. C'était vexant de le voir aussi stupide fixant son choix sur un canari. Un coup violent se fit entendre venant de la chambre à coucher.
« Ça y est !» cria Ernest, le visage tout assombri. « Que vous disais-je? Vous l'avez réveillé. Je savais bien que ça arriverait. C'est très mauvais à son âge d'être dérangé. »
Augusta répondit sans hâte. « Wakefield, va jusqu'à la chambre de maman. Ouvre doucement la porte et dis-lui « Tout va bien, grand-mère. Calmez-vous. » À la pensée de la scène entre son jeune frère et sa grand-mère, Pierce se mit à rire bruyamment.
Sa tante et ses oncles le regardèrent d'un air de reproche et Ernest ajouta « Pierce, il faut apprendre la politesse à cet enfant. » Wakefield traversa le hall, très digne, sous le poids de sa propre importance. Il ouvrit la porte de la chambre et, s'y glissant doucement, regarda presque avec terreur cette chambre que l'on devinait plutôt qu'on ne la voyait, à la lueur de la veilleuse placée sur une table basse à la tête du lit. Avant de parler, il referma la porte derrière lui pour atténuer le bruit des voix venant à travers le hall. Il voulait se faire un peu peur à lui-même, mais à peine un peu, avec l'étrangeté de sa solitude auprès de sa grand-mère. Dans cette lumière voilée, tandis que les gouttes de pluie tombaient du toit devant les vitres et qu'un seul œil rouge semblait briller dans l'âtre, comme si un esprit malin et caché le regardait. Il resta immobile, écoutant la respiration un peu courte de sa grand-mère, pouvant tout juste distinguer la tache sombre sur l'oreiller et le mouvement incessant de sa main sur le couvre-pied rouge. Les fleurs et les fruits peints sur le montant du vieux lit de cuir qu'elle avait rapporté de l'Est s'éclairaient un peu, moins éclatant que le plumage du perroquet qui s'y trouvait perché. Un soupir venu du lit passa dans l'air alourdi, comme le parfum d'un bouquet oublié, cueilli il y a bien longtemps. Tous les souvenirs lointains de ce lit étaient évoqués. C'est là qu'avaient été conçus Augusta, Nicolas, Ernest et Philippe, le père de tous ces ardents jeunes White Oaks. C'est là que, tous quatre, ils étaient nés. Là que Philippe était mort. Que d'émoi et que de souffrance, que d'extase et d'intrigue, que de rêves ce lit avait connu. Maintenant, grand-mère y passait la plus grande partie de son temps. Sa main s'éleva et resta en l'air, au-dessus du couvre-pied. Une faible lueur rouge vint de la bague de rubis qu'elle portait toujours. Elle cherchait sa canne. Avant qu'elle pût la saisir, Wakefield se précipita vers elle, lui disant comme un petit perroquet « Tout va bien, grand-mère, calmez-vous !» Il prononçait avec délice ces mots importants que tante Augusta lui avait mis dans la bouche. Il aurait aimé les répéter et répéta, en effet, « Calmez-vous, grand-mère !» Elle leva les yeux vers lui, sous ses épais sourcils roux. Son bonnet de nuit était de travers et lui cachait complètement un œil, tandis que l'autre regardait l'enfant avec intensité. « Calmez-vous » répéta-t-il en tapotant le couvre-pied.
« Je calmerai cette famille avec ma canne »
s'exclama-t-elle violemment.
« Où est-elle, cette canne ?»
Il la lui mit dans la main et recula un peu. Elle réfléchit un instant, cherchant à se rappeler ce qu'elle voulait faire, lorsqu'un éclat de rire à demi étouffé parvint de la salle à manger et rafraîchit sa mémoire.
« Que signifie tout ce bruit ? Et quelle est la cause de leur cri ?
C'est au sujet d'un canari, Gran, pour lequel Finch a un billet de loterie. »
Il se rapprocha d'elle pour mieux juger de l'effet produit par ses paroles. Cet effet fut terrible. Les traits de la vieille femme furent bouleversés par la colère. Elle le contempla, incapable de dire un mot pendant un instant, puis articula péniblement.
« Un canari ? Un oiseau ? Un autre oiseau dans la maison ? Je ne veux pas ! Bonnet sera fou de rage, il ne le supportera pas et le mettra en pièces !»
Bonnet, entendant son nom, sortit sa tête de sous son aile et la pencha en avant pour contempler sa maîtresse du haut de son perchoir à la tête du lit.
« Ramzada !»
jura-t-il en hindou.
« Ramzada et Flatone, Pati, Pati !»
Il se dressa sur ses pattes et battit des ailes, ce qui amena un petit courant d'air chaud sur le visage de Wakefield. La vieille Mrs. White Oak s'était soulevée toute seule sur son lit. Elle avait retiré de dessous la couverture ses grands pieds enveloppés de chaussons rouges, ainsi que ses longues jambes blêmes.
« Ma robe » cria-t-elle. « Là, sur cette chaise, donne-la-moi. Je leur ferai voir si je veux d'un canari babillard et endiablé dans la maison. »
Wakefield savait bien qu'il aurait dû courir à la salle à manger pour appeler un des aînés. C'était un événement sans précédent que de laisser grand-mère se lever sans l'aide de tante Augusta ou d'un des oncles. Mais l'amour de la nouveauté et du mouvement l'emporta sur la prudence. Il apporta la lourde robe rouge et l'aida à la mettre. Puis, il mit la canne dans sa vieille belle main impatiente. Mais ce fut une bien autre affaire quand il s'agit de la mettre debout. Pourtant qu'il la tira par le bras, il ne réussit pas à la faire bouger.
« Ah !»
gémissait-elle à chaque effort héroïque qu'elle faisait, tandis que son visage prenait de plus en plus la couleur de sa robe. À la fin, elle laissa tomber sa canne.
« Rien à faire, » murmura-t-elle. « Rien à faire. Prends mes deux mains et tire-moi. »
Elle lui tendit les mains. Un regard suppliant et plein d'espoir dans l'œil que ne cachait pas son bonnet. Elle espérait certainement que le petit garçon réaliserait son désir. Mais lorsqu'il l'attira de toutes ses forces par les deux mains, le seul résultat fut que ses pieds glissèrent sur le tapis et que son petit corps s'écroula dans les bras de la vieille dame. Elle éclata de rire et le serra contre elle, mi-riant de sa position, mi-fâchée de son impuissance. Il se mit à jouer avec les brides de son bonnet.
« Patty, Patty, cousa pooch !»
cria Bonnet en battant l'air de ses ailes multicolores. Mrs. Whitehawk repoussa Wakefield.
« Que faisons-nous » demanda-t-elle un peu étonnée. « J'essayais de vous lever, Gran. Pourquoi faire ?»
Et ses yeux s'éclairèrent d'un soupçon.
« Mais le canari, Gran, avez-vous oublié le canari de Finch ?»
Aussitôt, son vieux visage s'enflamma de colère.
« Si je me souviens certainement, un canari dans la maison, je n'en veux pas. Je bouleverserai tout, je ferai une scène. Il faut que j'aille à la salle à manger. »
« Si j'allais chercher Rennie ?»«
Non, non, non. Il me remettrait au lit, me recouvrirait l'animal. Je le connais. » Il faut que j'aille à la salle à manger pour leur faire peur. Et il faut me hâter. Autrement, l'un d'eux va venir. Ernest arrivera en pleurnichant, Nicolas en grognant ou Augustin en redressant la tête. Non, non !
Si vous essayez de vous traîner, Gran ?
Sa grand-mère lui jeta un regard furieux.
Me traîner ? Un membre de ma famille se traîner ? Un Court se traîner ? Apprends qu'un Court ne rampe ni ne se traîne jamais, pas même devant son créateur. Il marche droit, même s'il doit s'appuyer sur quelqu'un. Que les lâches traînent, les limaces et les serpents !»
Elle s'interrompit, en regardant autour d'elle avec inquiétude.
« Que disais-je ? Vous parliez de toutes les choses qui se traînent, Gran. Vous en étiez au serpent. Mais à quel sujet voulais-je faire une scène ?
Au sujet du canari, Gran.
Ah oui, il faut y arriver. Essaie de me pousser par derrière, Wakefield. Monte sur le lit.
Nullement découragé, le petit garçon grimpa sur le lit et, s'agenouillant derrière elle, la poussa de toutes ses forces entre les deux épaules. Gémissant, luttant de toute son énergie, les yeux hors de la tête, elle se leva. Et elle se leva si bien qu'elle faillit tomber la tête la première. Mais elle réussit à reprendre son équilibre. Comme un vieux bateau incapable de tenir la mer et battu par la tempête, elle pouvait encore parfois faire bonne contenance devant les vagues. S'appuyant lourdement sur l'épaule de Wakefield, elle apparut à la porte de la salle à manger et jeta un regard autoritaire sur les héritiers réunis. La stupéfaction et l'inquiétude remplacèrent la gaieté sur leurs visages. Pierce, qui était le plus près, sauta sur ses pieds et vint vers elle. Ernest approcha une chaise sur laquelle ils l'assirent.
« Maman, maman !» gourmanda Ernest en arrangeant son bonnet de façon à découvrir son autre œil trop brillant.
« Ceci est très mauvais pour vous !»
Augusta ajouta sévèrement.
« Wakefield, tu es un vilain garçon. qui mérite le fouet.
« Laissez cet enfant !» lui dit sa mère. « Il fait ce qu'il a à faire et ce qu'on lui ordonne, mieux que vous ne le faites !»
Lady Buckley effleura d'un doigt sa broche de camé et regarda le bout de son nez d'un air offensé. Voyant qu'elle ne souffrait de rien, Nicolas souriait radieusement à sa vieille mère à travers la table. Il admirait son esprit ferme et son caractère intrépide. « Quelle vigoureuse vieille femme » pensa-t-il. « Elle est merveilleuse. Il n'y a pas d'erreur. »«
Avez-vous faim, Gran ?» demanda Rény. « Est-ce cela qui vous amène ?»«
Non, non, non !» déclara vivement Ernest. « Elle n'a pas faim. Elle a mangé un grand bol de flocons de blé et du soufflé au riz avant d'aller se coucher. »
Sa mère tourna vers lui son visage de faucon.
« Des flocons de blé ?» Feuilles insipides, du soufflé au riz, graines insipides, des feuilles et des graines, c'est bon pour un insipide canari.
Elle laissa retomber son menton sur sa poitrine, répétant ce mot, canari. Son cerveau cherchait à tâtons, comme une vieille tigresse aveugle, s'efforçant de reconnaître la nature d'une proie inconnue. Canari, qu'évoquait ce mot ? Ses grands yeux errèrent sur tous les visages jusqu'au moment où ils tombèrent sur le jeune Finch qui se tenait dans l'embrasure de la porte. À cette vue, elle se rappela soudain pourquoi elle était sortie de son lit. Un canari. Finch avait apporté un canari dans la maison, un petit oiseau chanteur, criard et sautillant à Jalna. Elle n'en voulait pas. Son visage devint sombre de fureur et elle trouva difficilement ses mots.
« Donnez-lui quelque chose à manger, » dit Rény, « car elle va prendre une colère terrible. »
Wakefield poussa vers elle un plat de biscuits et de fromage. D'un air furibond, elle le repoussa avec sa canne.
« Finch !»
cria-t-elle.
« Je veux Finch !»
Le garçon hésita. « Approche, qu'elle n'ait pas besoin de crier, » dit Nicolas. Finch approcha lentement, avec une expression suppliante.
« Maintenant !»
dit-elle, levant vers lui un regard ferme et lucide sous ses sourcils roux en broussailles.
« Qu'est-ce que j'entends dire au sujet d'un canari ?»
Finch la regarda dans les yeux avec un sentiment de crainte et put seulement balbutier. « Mais regardez, grand-mère, regardez, il n'y a pas l'ombre d'un canari !»«
Je sais !» « Qu'il y a un canari !»
cria-t-elle en frappant le sol de son bâton.
« Un affreux coquin de canari que tu as introduit dans la maison. Va le chercher, que je lui torde le cou !»«
Mais, Gran, c'est seulement un billet de loterie. Il n'y a pas une chance sur 100 pour que je gagne et je ne le désire pas du tout. »«
Oh !»
cria-t-elle furieuse.
« Tu mens ! Viens ici !»
Il s'approcha avec méfiance, mais elle fut plus leste qu'il ne le croyait. D'un geste rapide et adroit, elle lui donna sur les doigts un tel coup que trois jointures furent écorchées et qu'il plia sous la douleur.
« Quel mauvais caractère !» dit sa fille.
« Calmez-vous, maman !»
grogna Nicolas. Ernest se leva de sa chaise en tremblant pour dire «
« Maman, cela est très mauvais pour vous. Vous pourriez avoir une attaque. »«
Une attaque ? »
cria-t-elle.
« Je lui ai donné un fameux coup à ce marmot-là, un coup dont il se souviendra. Je l'ai fait saigner. Sors ta main, garçon, que je la vois !»
Elle était écarlate de fureur. Rény posa son verre de rhum et d'eau et vint se pencher sur elle. « Ne voulez-vous pas qu'on vous embrasse, Gran ?» demanda-t-il d'un ton câlin. Elle leva les yeux vers lui et, de dessous son bonnet, examina son visage. Ce visage mince et rouge, qui s'était brusquement approché d'elle, lui dissimulait tous les autres. Le nez, très busqué, ressemblait au sien. Les lèvres qu'un sourire entrouvait sur de larges dents étaient fermes, avec cependant quelque chose d'indulgent et de tendre qui retint son attention. Tout cela l'inonda d'une joie à laquelle elle ne put résister. Rény, l'os de ses os, un vrai courte de la vieille race, sans aucune mièvrerie.
« Embrasse-moi »
cria-t-elle. Vite, embrasse-moi.
Finch profita de l'occasion pour se glisser hors de la pièce. Et tout en montant l'escalier aux tapis épais, il pouvait entendre l'échange bruyant des baisers. Reprenant haleine, la vieille dame regarda triomphalement autour d'elle. Rény s'était écarté d'elle, la laissant comme fortifiée par sa robuste étreinte. Donnant une brusque secousse à son bonnet qui retombait sur son œil, elle réclama.
« Mes dents ! Qu'on aille me chercher mes dents car j'ai faim ! Allez me chercher mes dents !»«
L'un de vous veut-il y aller ?» murmura Augusta, résignée. Wakefield bondit joyeusement jusqu'à la chambre et revint instantanément avec les deux râteliers dans un verre d'eau. Mrs. Whitehawk se pencha vers lui et tendit les mains. Elle ne pouvait supporter d'attendre. Le petit garçon poussa le verre devant elle.
« Pour l'amour du ciel, attention, enfant !»
s'écria Augusta.
« On n'aurait pas dû lui permettre d'y aller !» dit Ernest, qui, plein de mépris pour lui-même, se versa cependant un peu plus de rhum.
« Quelle bonne soirée !» pensait un peu plus tard Rény. « Quel bon souper avaient fait la vieille dame et les vieux oncles, comme ils étaient heureux de leur excès de rhum. Jamais ils n'avaient vu l'oncle Nicolas aussi amusant après le départ des femmes, lorsqu'ils s'étaient trouvés seuls, entre hommes, leurs verres remplis à nouveau et les rideaux rouges bien fermés. Quelle bonne journée! Les chevaux avaient été parfaits, lui aussi. Il ressentait une agréable sensation de fatigue saine dans les jambes et dans les bras. Même une sensation, plutôt une perception nette et agréable de chacun de ses muscles. Comme la jument avait bien tiré et bien lutté. Avec son corps mince, replié dans son fauteuil, son visage osseux et bruni, incliné sur le bois de la table où se reflétait la lumière des candélabres, l'aîné des Whitehawk aurait fait un beau modèle pour un artiste désireux de peindre la soirée d'un chasseur. Le peintre aurait trouvé dans la position des membres et les lignes de la tête une expression parfaite du repos de l'homme qui met tout son bonheur dans des travaux violents et simples. Rags levait le couvert. Comme il enlevait les bouteilles où restait encore un peu d'alcool, le maître de Jalna lui fit un signe en disant simplement « C'est pour vous, Rags ».